Décryptage, Marie Cazadebé.
La Chine tisse sa toile, elle atteint désormais l'Italie, seul pays du G7 à envisager de prendre part au gigantesque projet de développement chinois des nouvelles routes de la soie. Le président Xi Jinping est à Rome, il sera en France à partir de dimanche, mais là, le discours ne sera pas le même. Emmanuel Macron y est opposé et espère même une coordination européenne pour contrer ce projet chinois. Alors pourquoi tant de réticences de la part de Paris et d'autres pays européens quand des dizaines d'États adhèrent aux ambitions de Pékin? Quels sont les enjeux des nouvelles routes de la soie? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Emmanuel Linco.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine. Votre ouvrage « Chine, une nouvelle puissance culturelle » avec un point d'interrogation va paraître dans quelques jours aux éditions MKF. Vous y analysez évidemment les enjeux de ces nouvelles routes de la soie. Alors on parle de nouvelles routes de la soie, mais est-ce que la traduction américaine « One Belt, One Road », une ceinture, une route, ne résume pas mieux les ambitions de la Chine, surtout quand on regarde une carte?
Assurément, parce que c'est la traduction littérale justement de l'expression chinoise « Dai Lu » qui désigne au-delà même de la route, la ceinture. Et donc la ceinture, c'est aussi au sens à la fois anglais mais aussi chinois, une autre acception possible, c'est-à-dire celle de gisement, de potentialité. Mmh. Et la route conduit justement vers ces gisements et ces potentialités les plus diverses.
Comment en est-on venu alors à parler des nouvelles routes de la soie? C'est un regard occidental qui rappelle évidemment l'histoire glorieuse de la Chine?
Oui, et qui rappelle par ailleurs une réalité, c'est-à-dire qu'il y eut dans un temps passé effectivement des axes de communication et d'échanges culturels, notamment entre l'extrême Occident et l'extrême Orient. Mais ces nouvelles routes de la soie, en fait, en tant que projet politique et économique global, initié par Xi Jinping, a été annoncé par celui-ci en 2013 à Astana, capitale du Kazakhstan, et membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est un membre associé de fait à ce projet chinois.
Alors quand on regarde une carte, ce que je disais, on parle de boucle, est-ce qu'on peut la dessiner ensemble, les régions qu'elle traverse? Ça fait évidemment donc un cercle, une boucle, qui traverse d'abord l'Asie. Quelles autres régions du monde sont concernées par ce projet?
C'est essentiellement au départ l'Eurasie, au sens large, aussi bien des axes de communication terrestre, bien sûr, avec un passage obligé par l'Asie centrale, qui est une région essentielle pour la diplomatie chinoise, depuis au moins l'effondrement du bloc soviétique, et puis des axes maritimes. Mais objectivement, on le sait, et surtout depuis les déclarations de ce même Xi Jinping l'année dernière, les routes de la soie intègrent aussi l'Afrique subsaharienne. Mmh. Donc c'est un projet monde.
Donc on parle là de connexion, la Chine veut se rapprocher justement de ces territoires-là. On ne parle pas que de routes ni de connexions maritimes. Dans chaque pays, la Chine s'installe.
Oui, et elle le fait intelligemment, c'est-à-dire en ayant recours à la fois à des outils multilatéralistes, mais aussi dans une approche purement bilatérale. Et on le voit par rapport à l'Union européenne, qui reste le premier partenaire commercial de la Chine, d'où son intérêt évidemment et l'intérêt de Xi Jinping que d'aller en Italie. C'est absolument essentiel d'avoir accès à ce marché, soit par ses axes de communication terrestre ou maritime, avec évidemment des innovations essentielles dans le domaine du numérique où la Chine est encore dépendante de l'étranger, soit des États-Unis avec lesquels évidemment les relations sont au plus mal, soit avec l'Union européenne qui paraît être la seule opportunité aujourd'hui en termes de marché pour la Chine dans ce domaine précisément.
Alors ce qui est étonnant, c'est quand on parle de ce grand réseau, cette grande boucle que vous avez dessinée, lorsqu'on parle des pays traversés par cette route, on utilise parfois le mot comptoir, comme à l'époque coloniale. Est-ce que justement on peut comparer, est-ce qu'on avait déjà connu même un projet aussi vaste depuis finalement l'époque coloniale?
Ce qui change en fait, c'est un état de la technique, c'est-à-dire que selon l'expression consacrée, nous vivons dans un village planétaire, n'est-ce pas? Et donc la Chine effectivement a recours à des moyens qui ont été ceux de l'Empire britannique à travers le monde, bien sûr, avec néanmoins très certainement une volonté aussi de sécuriser ces axes d'approvisionnement par des objectifs militaires, de ports qui ont d'abord une vocation civile, c'est le cas du port de Gwadar par exemple au Pakistan ou situé en Birmanie, pour citer un certain nombre de ports asiatiques convoités par la Chine, mais qui pourraient raisonnablement devenir des ports militaires chinois évidemment, sachant évidemment que le camp adverse, savoir au sens large les États-Unis et leurs alliés respectifs, dont la France d'ailleurs, ne sont pas sans réfléchir à une possible riposte.
Un projet concurrent.
Un projet concurrent, le projet Indo-Pacifique notamment, qui est un projet initié essentiellement par l'Inde et par le Japon, mais qui, à la différence du projet des nouvelles routes de la soie chinois, est un projet essentiellement stratégique et militaire. C'est-à-dire que les routes de la soie, c'est autre chose. C'est à la fois beaucoup de choses qui sont clairement énoncées, et en même temps, il y a une opacité dans le projet qui le rend effectivement difficile à comprendre et à appréhender, d'où également les inquiétudes, et notamment françaises. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un projet stratégique, c'est aussi un projet économique global.
On va y revenir, mais vous évoquiez un projet concurrent, c'est en tout cas un projet qui semble... En tout cas, la France semble y adhérer davantage. Elle a finalement un peu choisi son camp. On l'entendra, on va en parler évidemment des réticences de la France. Elle a plutôt choisi l'axe Japon-Inde que vous évoquiez tout à l'heure. Finalement, elle a choisi son camp.
Alors, c'est vrai que c'est une relation assez complexe. Déjà, la visite de Xi Jinping, notamment en France, intervient au moment où la France et la Chine s'apprêtent à commémorer le 55e anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle. Donc c'est un moment anniversaire assez crucial d'un point de vue du symbole. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, l'année dernière, lors de sa visite en Chine et lors de son discours prononcé à Xi'an, semblait plutôt favorable au projet des nouvelles routes de la soie, et quelques semaines plus tard à Canberra, eh bien il semble avoir davantage adhéré effectivement pour le projet adverse, c'est-à-dire le projet des nouvelles routes de la soie. En tout cas, c'est d'une manière générale ainsi qu'on le présente. En réalité, la position de la France est médiane dans les faits, c'est-à-dire qu'elle pourrait très bien s'associer aux deux. Je ne pense pas que cela soit fondamentalement incompatible, parce que, encore une fois, coopérer avec la Chine dans des projets d'investissement, dans des régions qui nous sont par ailleurs familières, je pense à l'Afrique subsaharienne, ou qui le sont moins, comme l'Asie centrale, me paraît absolument essentiel avant que la Chine ne finisse par imposer ses propres normes et ses propres choix. C'est là le problème, justement. C'est-à-dire que ces réticences françaises, voire allemandes, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a effectivement un bloc franco-allemand qui s'esquisse dans ses choix stratégiques d'opposition au projet chinois, comparé à la disposition plutôt favorable de l'Italie, voire du Portugal, qui a déjà signé il y a quelques mois un MOU avec le gouvernement chinois sur le projet des routes de la soie, voire des Balkans. Donc, ce projet des nouvelles routes de la soie, clairement, révèle une division entre les Européens.
On va revenir aux intérêts chinois, donc avec ce projet lancé en 2013. Heike Schmidt s'était rendu mi-2017 dans une usine automobile Lifan à Chongqing, dans l'ouest de la Chine, et déjà le bras droit du directeur général du constructeur constatait les bénéfices.
Nous sommes principalement tournés vers l'exportation. Notre plus grand marché est la Russie. Avant, on exportait nos moteurs et voitures en Russie par la mer. Mais ça prenait 45 jours. Grâce au train Weixinhuo, qui lie la Chine à l'Europe, le parcours a été réduit à 15 jours. Cette voie ferrée nous offre l'opportunité de trouver de nouveaux débouchés à l'étranger. D'ailleurs, nous avons déjà exporté nos produits vers un tiers des 65 pays qui participent au projet Une ceinture, une route.
Emmanuel Lenko, on l'entend, le principal intérêt, en tout cas l'un des intérêts de ces nouvelles routes de la soie, c'est réduire les distances, c'est exporter davantage les produits chinois. Est-ce que cela répond à des besoins spécifiques? Et notamment, on parle souvent du ralentissement de l'économie chinoise. Est-ce que la Chine n'est pas obligée finalement de sortir de ses frontières?
Vous avez raison, ce sont aussi des projets d'infrastructure hein, extrêmement ambitieux. Dans des pays faillis où les Occidentaux, évidemment, se sont retirés depuis assez longtemps, je pense naturellement au Pakistan ou bien au Kyrgyzstan, et qui crée par ailleurs un état de dépendance de ces états, de ces économies vis-à-vis de la Chine. Bon, là où les Européens commencent à réagir assez tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, c'est dans la certitude selon laquelle En réalité, la Chine a encore besoin de l'Union européenne dans le domaine des très hautes technologies. C'est pas tant l'exportation des voitures ou que sais-je ou des biens manufacturiers d'une manière générale, c'est vraiment tout ce qui a trait à l'économie déjà d'aujourd'hui et surtout de demain, la 5G, l'intelligence artificielle, etc. Et on le sait, à la fois les Français et les Allemands sont très bons dans ces domaines aussi, donc évidemment convoités. Mmh. Et l'intérêt pour Xi Jinping et pour les Chinois serait d'obtenir évidemment un acquiescement, en tout cas une plus grande collaboration de la part des autorités françaises par rapport à ce projet, parce que la France a des atouts tout à fait exceptionnels comparés à l'ensemble des autres membres de l'Union européenne, parce que membre de l'ONU, etc., etc. Mais le fait, par ailleurs, rappelons-le, que Xi Jinping privilégie pour son voyage en Europe cette fois-ci d'abord l'Italie, membre fondateur justement de l'Union européenne, membre de l'OTAN, membre du G7, fait sens, c'est-à-dire que clairement il y a une volonté, allez, disons les choses, de diviser pour mieux régner.
Parce que clairement, ce projet-là n'est pas qu'économique, on l'entend bien. Ce n'est pas juste vendre des automobiles chinoises, récupérer des ressources et des énergies étrangères. Le projet, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'il est aussi politique, culturel ? Qu'est-ce que vous diriez des nouvelles routes de la soie ?
C'est évident. C'est-à-dire que n'oublions jamais que la Chine est un régime autoritaire. Et donc, s'associer avec des régimes illibéraux, comme l'ont dit, de l'Italie ou bien de la Hongrie, donc qui sont des États de plus en plus tournant le dos précisément à Bruxelles, ce n'est absolument pas le fait du hasard. Mais c'est aussi un projet de type soft ou sharp power assez insidieux, parce que les spéculations vont bon train au moment même où nous parlons. L'on parle notamment d'une possible rencontre entre le pape François demain matin et le président chinois Xi Jinping. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message ça voudrait dire, indépendamment même de l'avenir de la catholicité et des chrétiens en Chine, qui est un problème évidemment essentiel. Cela signifierait, d'un point de vue du symbole, obtenir peut-être des gages de moralité pour un président dictateur chinois après avoir rencontré son homologue italien. C'est peut-être cela aussi.
Alors on va s'intéresser maintenant à ce que les pays étapes, donc on a parlé tout à l'heure de comptoirs, ont à gagner avec ces nouvelles routes de la soie. Écoutez, Narson Rafidi Manana, c'est l'ex-ministre malgache de l'aménagement du territoire et de l'équipement au micro de Sarah Teto. Il a participé à la signature d'accords bilatéraux avec Pékin début de 2018, car le projet de la Chine passe par la Grande Île.
Madagascar a besoin de l'infrastructure, que ce soit portuaire, routière et aussi au niveau énergétique. La Chine est prête à investir pour aider à reconstruire, pour aider à mettre en place l'infrastructure à Madagascar. On parle de 30 milliards de dollars qui vont être investis sur l'infrastructure à Madagascar. La Chine aujourd'hui a un surplus de liquidité, je dirais, en financière. C'est-à-dire que l'État malgache emprunte à l'État chinois, comme avec la Banque mondiale, comme avec l'Union européenne, comme avec l'AFD, c'est un taux qui est aux alentours de 1%, moins de 1%.
Qui aura la gestion de toutes ces infrastructures ?
Ça sera une société à créer ensemble, c'est-à-dire une société d'État qui va gérer les autoroutes, les infrastructures qu'on va mettre en place. Une société, sinon malgache, bien évidemment.
Emmanuel Linco, aujourd'hui, seule la Chine propose de tels investissements, et notamment en Afrique. C'est la raison pour laquelle Pékin peut avoir de si grandes ambitions.
Oui, mais c'est extrêmement dangereux, et c'est ce qu'a rappelé notamment à ses homologues à la fois kényans, éthiopiens et djiboutiens Emmanuel Macron il y a quelques jours en se rendant dans la région de la Corne de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix diversifier ses investisseurs pour éviter une trop grande dépendance économique. Dès lors où vous avez une personne qui vous prête 1 euro, vous ne rendez pas 7 euros, ce n'est pas un problème dramatique. Vous prêtez, comme cela a été dit pour Madagascar, où on pourrait ajouter l'exemple par ailleurs du Pakistan, plusieurs dizaines de milliards, et que vous ne les rendez pas. C'est un retournement, je dirais, dialectique et hegelien, c'est-à-dire que c'est l'esclave qui devient le maître du maître, véritablement. Et on le sait par ailleurs, malgré l'opacité du régime chinois, le projet des nouvelles routes de la soie que porte seul Xi Jinping, fondamentalement, est de plus en plus critiqué au sein même du Politburo, parce que c'est un projet dangereux pour l'économie chinoise aussi.
Alors c'est dangereux, c'est le plus dangereux pour qui ? Vous parlez de pays très endettés, est-ce que c'est dangereux pour ces pays qui se rendent complètement dépendants de leurs créanciers, ou de Pékin qui risque de ne jamais voir le retour sur investissement ?
Les deux, fondamentalement, et c'est pour cette raison que la France, modestement, mais aussi et surtout l'Union européenne, ont une carte à jouer, et notamment par rapport à leurs partenaires africains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Afrique tombe dans un état de trop grande dépendance par rapport à la Chine non plus.
Comment Pékin parvient-il à financer tout cela ? On parle de 1000 milliards de dollars. On sent que la Chine est prête à prêter. Là, on parle quasiment à une centaine de pays. D'où vient tout cet argent ?
Déjà, il faut rappeler qu'on a une économie, je dirais, d'un genre très particulier. C'est une économie hybride qui est certes globalisée, mais avec un État interventionniste d'une manière systématique. Et avec justement des zones d'ombre, on le sait bien, notamment une très grande spéculation dans le domaine de l'immobilier. Bref, il y a des bulles spéculatives qui sont extrêmement dangereuses, qui montrent bien que ce projet aussi est un projet assez précaire. C'est-à-dire que si jamais ces bulles crèvent, eh bien, ce sont toutes ces économies, justement, en état de dépendance qui risquent de s'entraîner mutuellement dans un déclin irréversible.
Alors, les États-Unis, évidemment, sont totalement exclus de ce projet, ça va de soi, mais l'Europe, l'un des principaux partenaires économiques de la Chine, ne l'est pas. Et l'ex-premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, est l'une des rares voix françaises à encourager la participation aux nouvelles routes de la soie.
Personne n'oblige à faire des dettes quand même, mais nous avons besoin de grandes infrastructures aujourd'hui partout dans le monde. Évidemment qu'il y a des intérêts chinois, mais à nous, Européens, d'avoir nos propres intérêts dans ce projet. Sinon, bien naturellement, on passera à côté de l'histoire.
Emmanuel Linco, pour l'instant, en Europe, ce sont les pays les plus fragiles économiquement qui ont accepté ces accords bilatéraux avec la Chine. Vous avez parlé du Portugal, mais il y a la Grèce aussi.
Bien sûr.
Pékin a profité ou a surfé en tout cas sur ces crises-là. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'elle trouve sa place en Italie ?
Eh bien, parce que l'Italie, je dirais, dans une moindre mesure, cela est vrai aussi pour la Grèce, constitue des portes d'accès aussi pour l'Afrique. Et ne jamais oublier, justement, que la Méditerranée, d'une manière générale, intéresse les Chinois parce que l'Afrique, précisément. Mmh. Et puis, l'Afrique du Nord, notamment la Libye, où, rappelons-le, jusqu'en 2011, un très grand nombre d'ouvriers chinois ou spécialistes dans le domaine des raffineries de pétrole en Libye travaillaient et ont été exfiltrés par l'armée chinoise lorsque le régime de Kadhafi s'est effondré.
Alors on peut comprendre là l'intérêt de la Chine, mais l'intérêt d'Italie. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de cette aide financière pour ces infrastructures ?
Je pense que c'est lié aussi à une empathie fondamentalement politique. C'est clair que l'Italie s'éloigne de plus en plus de ce qui l'a constitué au départ dans un contexte déjà lointain, mais qui reste néanmoins, d'un point de vue des mémoires, extrêmement prégnant, c'est-à-dire la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, le fait que l'Italie ait été une démocratie, et elle est en train de tourner le dos justement à cet héritage. Donc ce n'est pas le fait du hasard, et les routes de la soie, nous l'oublions pas, c'est aussi l'exportation a priori d'un modèle de société hyper autoritaire, avec une conjugaison de la technostructure de type Internet au service d'une surveillance du territoire et d'une emprise systématique de l'État parti communiste sur des populations considérées comme indésirables, notamment les Ouïghours. Et donc ça, c'est un véritable sujet, jusqu'où peut aller la coopération, pour ne pas dire la collaboration, qui est un terme, on le sait, fort, entaché d'idéologie par rapport à l'histoire française, jusqu'où peut aller notre collaboration avec la Chine.
Alors justement, il nous reste peut-être 30 secondes, Emmanuel Linco, est-ce que la France risque de le payer ?
Non, si elle reste associée à l'Allemagne dans l'élaboration de contre-projets, et si elle parvient, et je pense qu'elle a des atouts pour le faire, à convaincre la Chine d'une plus grande réciprocité, de la fin finalement d'une concurrence totalement déloyale, c'est-à-dire une ouverture réelle du marché chinois aux nouvelles technologies, notamment françaises, et elles sont importantes.
Et le sujet est donc au menu ce soir d'un Conseil européen. Merci beaucoup Emmanuel Linco.
Merci.
Je rappelle que votre ouvrage apparaîtra prochainement, s'intitule Chine, une nouvelle puissance culturelle, point d'interrogation. C'est aux éditions MKF. Merci à toute l'équipe de décryptage. Éléonore Krenik, Emmanuel Sevin, Laurence Sarniguet et Claude Battista à la réalisation. Tout de suite, un point sur l'actualité africaine.